Crosses over the fadeaway.
Take the step back and kiss myself.
Oh my
MVP
gosh, it's
time.
Over.
Oh my goodness, www.myface.com.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour la cinquième émission, cinquième dimanche avec l'écho des parquets, toujours avec nous, nos amis Laurie du Bowling Crew qui est là, ça va Laurie?
Salut, bonjour à tous, ça va bien, merci.
Ok, vous retrouvez aussi Lisa qui est là, Lisa qui est de retour, qui n'était pas là la semaine dernière, ça va Lisa?
Oui, ça va, je suis contente d'être de nouveau avec vous.
Ah, vous que t'étais All-Star Game?
Voilà, c'est ça, tu m'as démasqué.
Voilà, c'était toi. Donc on a aussi Guillaume, bien sûr, toujours là Guillaume.
Bah ouais, toujours là, salut à tous.
Ça va Guillaume?
Ça va, ça va.
Ok, prêt pour parler de Royce White?
Toujours prêt.
Et pour finir, Nico, toujours présent aussi, Nico, alias Steel Ballin, la touche Steel Ballin sur Basket Info. Ça va, Nico?
Ça va bien, ouais. Bonjour à tous.
Bon, alors aujourd'hui, les amis, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler des Lakers. Des Lakers, ça va faire plaisir à Laurie, ça, les Lakers.
Ah, enfin, une bonne nouvelle pour commencer ce dimanche. Très bien, très bien.
Donc voilà, les Lakers, ensuite, on va parler aussi de la deadline. On va peut-être commencer d'ailleurs par la deadline, la période des 30 de transfert qui est terminé. On va aussi parler de Royce White, encore une fois. Non, je déconne. Pas Royce White. Non, par contre, en revanche, on va faire le super quiz aujourd'hui qu'on n'a pas fait depuis trois.
Sur Royce White.
Sur Royce White. Non, mais on va faire ce. D'ailleurs, Royce White, hein, si vous nous rejoignez aujourd'hui, hein, c'est un sacré running gag depuis le début de l'émission. Donc voilà, excusez-nous pour tout ça.
C'est notre fil rouge, hein, et c'est pas en référence au.
C'est notre poulain.
Voilà, un jour il sera avec nous, hein, bien sûr, on va tout faire pour l'avoir. Et donc voilà, et qu'est-ce que je disais, on finira voilà par le quiz. Et quiz haut en couleur aujourd'hui, où mes amis vont s'affronter dans une terrible bataille. Enfin bref, des super cadeaux à gagner comme d'habitude, vous verrez ça tout à l'heure. Tout de suite, on va commencer par la deadline, la période des transferts. C'est parti, jingle.
Rose crosses over the fadeaway.
Et voilà, c'est parti, on commence tout de suite avec la période des transferts qui s'est terminée donc jeudi soir. Période des transferts un peu terne, un peu morne, on va dire. On s'attendait à beaucoup plus que ça, on s'attendait à du lourd sur beaucoup de joueurs, sur Josh Smith. On attendait JJ Redick dans une grosse écurie. Bon, voilà, on en a eu pour notre argent, on va dire. Donc on va commencer tout de suite. Mes amis, quel trade vous avez retenu vous, au final, parce que à part JJ Redick, Jordan Crawford, on n'a pas eu grand-chose de folichon.
Pour moi, le plus gros, c'est quand même pas le plus gros. Façon de dire, c'est celui de Thomas Robinson à Houston. Enfin, l'intérêt surtout, c'est que Houston a pris un gros risque en cassant une équipe qui marchait pas trop mal. Et je pense que c'est ça le truc décisif du transfert. Toutes les équipes qui ont fait transfert, ça n'a pas changé grand chose ou ils ont pas pris beaucoup de risques. Par contre, Houston, oui, ils ont pris un gros risque et on va voir si ça va payer pour eux ou pas du tout.
D'accord, donc le trade, on va le rappeler, le trade entre les Kings et les Rockets, donc Thomas Robinson, Francisco Garcia, Tyler Honeycutt, un second tour de draft des Suns, et en retour des Rockets, donc les Kings ont reçu Cole Aldrich, Tony Douglas, Patrick Patterson. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal comme package ça de la part des Rockets, Tony Douglas, Patrick Patterson et Cole Aldrich.
Ouais, c'est un beau package, mais encore une fois, Sacramento en fera rien, quoi. C'est là qu'est le souci.
Sacramento ne fait jamais rien de ses joueurs. Hein.
Bah, c'est ça, Patrick Patterson, c'était un bon joueur dans le système de Kevin McHale, puisque c'est un intérieur qui pouvait dégainer à longue distance, et donc ça collait bien avec le tac des Rockets. Mais à Sacramento, il y a déjà DeMarcus Cousins, il y a déjà Jason Thompson, et à l'arrière Tony Douglas. Bon, ben. Il y a de la concurrence
Tony
à l'arrière.
Douglas. Ouais. Pauvre Tony Douglas qui ouais. se retrouve ah ouais. encore dans une équipe où il va jouer de la serviette. Laurie, toi, ton trade là cette semaine, qu'est-ce que t'as retenu?
Bah ouais, moi franchement, je vais dire pareil, hein. C'est celui Houston Kings. Après, peut-être aussi le trade JJ Redick et puis c'est Beno Udry qui s'en va, enfin entre autres, hein, mais. Je trouve que Beno Udry, le faire partir de Milwaukee, c'est peut-être un peu dommage, hein, puisqu'il était quand même un bon complément à Brandon Jennings. Donc, ouais, bon, pourquoi pas. Redick, après, moi, je pense que ça reste un joueur de banc, donc titulaire, voilà. Moi, c'est peut-être celui-ci qui m'a un petit peu je le sentais venir un peu, donc voilà, c'est celui-ci qui m'a un peu interpellé, on va d'accord. dire.
Donc on va dire que bah, de toute façon, Milwaukee va pas manquer d'arrière là pour cette année. Je pense. Lisa, toi, qu'est-ce que t'as retenu?
Ben, je vais pas faire dans le changement. C'est comme mes autres petits collègues, c'est le transfert de Thomas Robinson après sa deuxième année NBA, si je me trompe pas, qu'il soit déjà transféré. C'est dommage parce que
première,
oui, c'est vrai. Ouais. Première, pardon. Ça peut être quand même dommage, mais je retiens aussi les deux frères Maurice qui se retrouvent dans la même équipe comme à l'université. Je m'en réjouis.
Voilà, voilà, je voulais en parler. Voilà, les Suns qui ont récupéré le frère de Markieff Maurice, qui ont récupéré Marcus. Donc lui qui était d'ailleurs en larmes quand il a appris qu'il allait jouer avec son frère. Belle histoire, ça, non, Nico?
Oui.
Ah, Nico, toi qui es le professionnel des belles histoires, dis-nous.
Ouais, Nico, non, il a eu sa petite larme aussi, hein, de toute façon. Tu peux le dire, mais pas
ouais,
tout.
Ouais, bon, mais balancez pas tout comme ça.
Tout le monde est démasqué aujourd'hui. Vas-y, ouais, dis-nous.
Non, mais c'est vrai que c'était déjà une belle histoire à l'époque de l'université à Kansas. Là, ils se retrouvent. Je crois que c'est la première fois en plus que des jumeaux se retrouvent dans la même équipe, un NBA ou un truc comme ça, je sais pas.
Ouais, il me semble que c'est la première fois. Ouais.
Non, la deuxième fois, il me semble. C'était. Ouais, dans les années 70, je crois. 70, pardon. Pour, à Phoenix également.
Le bug 70, qu'est-ce que c'est?
Nous ne commenterons pas cette histoire. Vas-y, Lisa, continue.
Dans les années 70, de nouveau deux frères qui se retrouvaient ensemble, à Phoenix également. Donc, c'est la deuxième fois que ça arrive.
Deuxième fois, très bien, Lisa. Merci pour cette intervention, Lisa.
Je vous en prie.
Vas-y, Nico, tu peux continuer.
Il y avait un truc qui était intéressant avec la paire des frères Maurice, c'est que finalement à l'université ils étaient assez complémentaires avec le Markieff le plutôt l'intérieur un peu plus role player que Marcus, et du coup le Marcus qui était plutôt le scoreur, le talent des deux, le talent entre les deux. Et là on va voir si on va un peu retrouver cette alchimie ou pas. Bon, c'est un contexte assez différent avec maintenant Markieff qui est devenu un shooter. Je sais pas trop si c'est voulu ou pas. On va voir. Mais après, est-ce que finalement ça relève plus de l'anecdote que du vrai événement sportif, ça?
Je pense qu'on verra à l'avenir, mais ça peut. Alors le problème c'est que ça peut devenir soit très anecdotique avec deux joueurs qui finalement vont errer un peu sur le terrain, ou alors une explosion en termes de sport, une explosion pour les deux. Si les deux arrivent à se complémenter parfaitement sur le terrain, ça peut être vraiment un avantage pour Phoenix. Non négligeable, j'ai envie de dire, Guillaume.
Ouais, en même temps, Phoenix a plus grand chose à jouer cette saison.
On parle pas de la saison, c'est pour l'avenir, le trade vraiment pour tourner
dans l'avenir. Moi, même pour l'avenir, je pense que sportivement, c'est pas aussi pertinent qu'on puisse le penser. C'est-à-dire, en dehors du terrain, ça va bien sûr être un plus pour les jumeaux qui ont toujours joué ensemble. Hein. Mais sportivement, je suis pas convaincu, puisque c'est quand même deux joueurs au profil assez similaire. Je suis pas convaincu que l'utilisation des deux en même temps soit également très pertinente. À voir, je sais pas.
D'accord, donc on va passer tout de suite au trade de Jordan Crawford, la Celtics. On va parler, parce qu'on a pas mal de trades à faire, donc on va parler rapidement sur Jordan Crawford. Encore un coup de Danny Ainge, j'ai envie de dire, royal.
Alors oui, pour le coup, là, c'est un très bon coup, parce que Boston a eu Jordan Crawford presque gratuitement, il me semble. C'était contre...
Oui, c'est... Alors,
contre Barbosa qui est blessé. Oui, vas-y.
Voilà, Leandro Barbosa. Voilà, Jason Collins et Leandro Barbosa. Donc Barbosa qui est blessé entre guillemets pour on va dire 10 mois. Donc et Jason Collins, qui avait un petit apport à Boston quand même. Il y a eu quelques petits trucs, mais qui n'est pas non plus le joueur.
Jason Collins apportait quand même de la taille, de la présence dans la raquette quand
Garnett était sur le banc.
Après, moi, la bonne affaire pour Washington, c'est on dit ils l'ont donné gratuitement alors que c'est quand même un bon joueur, d'accord. Moi, il faut le voir plutôt comme ça, je pense. Ils se sont débarrassés de Jordan Crawford, qui était quand même un sacré croqueur, qui était un croqueur de la dynamique de l'an dernier avec les Nick Young, JaVale McGee. Cette mauvaise dynamique, et surtout ils s'en sont débarrassés pour laisser exploser John Wall et Bradley Beal qui jouent plutôt bien ensemble. Donc je pense que c'est aussi une bonne affaire pour Washington.
Les Wizards là, ont commencé à bien faire le tri là sur cette équipe de l'année dernière là.
C'est ça.
On a eu donc McGee qui est parti, on a eu Nick Young qui est parti, Jordan Crawford,
André Blatch.
André Blatch. On a fait le ménage à Washington, donc peut-être que on commence sérieusement à penser à l'avenir là. Enfin, peut-être pour une fois, non?
Bah là, ils sont en train de gagner là déjà. Ce moment,
ouais.
C'est pas mal.
Ah,
je crois qu'ils sont sur.
Ils ont gagné contre Houston.
Là, une victoire cette nuit, voilà, contre Houston, 5-5 à 103. Non, je pense que là, Washington et on commence à réfléchir, j'ai envie de dire.
Ah, mais comme quoi avoir des joueurs de basket, c'est bien quand même dans une équipe.
Voilà. Non, parce qu'un assemblage de croquis comme ça, c'est pas toujours utile. On va passer Dexter Pittman. Ça, je sais que ça te tient à cœur, Nico. Dexter Pittman.
Très vite fait alors.
Très vite fait, mais tiens alors donc. Dexter Pittman qui est parti chez les Grizzlies, Nico, tu nous as fait.
Bah manifestement les Grizzlies avaient besoin de viande hein, surtout parce qu'à part c'est un peu tout ce qu'il peut apporter le Dexter.
Bah oui, excuse-moi Nico, je te laisse après parler, mais il faut juste préciser que c'est parce qu'ils l'ont pris Dexter Pittman parce qu'ils ont envoyé Ahmed Adadi à Toronto. Hein. C'est juste pour avoir un mec qui apporte des muscles dans la raquette.
C'est juste pour remplir la place sur le banc, quoi.
C'est ça, voilà.
Parce qu'il aime bien avoir tout le monde sur le banc, sinon c'est pas correct. Oui, mais après, on peut toujours se demander, moi je suis toujours un peu étonné de voir ces transferts-là. Je me dis, bah, pourquoi ils sont pas embêtés à recruter un intérieur qui était sans club au prix minimum, quoi. Je pense qu'ils en ont trouvé pas mal. Donc je suis toujours un peu étonné ce genre de transfert.
Oui, parce qu'il a été changé contre juste un second tour de draft et une trade d'exception.
Ouais, mais tant qu'à faire, autant prendre quelqu'un gratuit, enfin, sans rien donner en contrepartie, quoi.
Ouais, bon, oui. Miami, ça leur enlève rien.
Bah, ils... Miami, ils ont juste une bonne vanne, ça leur a fait. C'est tout.
Ok, donc on va laisser tomber Dexter Pittman. Par contre, j'avais envie de parler de Ronnie Brewer. Lisa, tu as suivi Ronnie Brewer qui est parti à Oklahoma?
Absolument pas, non.
D'accord,
mais c'est vrai que c'est pas un des.
Merci Lisa.
Non, pour être honnête, c'est vraiment pas un des transferts qui m'a marqué, non.
Alors, non, Ronnie Brewer, on va en parler rapidement là. Ronnie Brewer, le Thunder a fait un gros coup là pour l'histoire là contre un second tour de draft.
Ouais, comme d'habitude.
Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, Oklahoma, à chaque fois, ils font quand même des sacrés bons trades. Hein. Et là, Ronnie Brewer, je trouve que c'est un plus non négligeable. En plus, il jouait plus à New York, il me semble qu'il était quand même sur le bout du banc ces derniers temps.
Ouais, exactement, depuis le retour.
C'est plutôt pas mal.
On peut se dire que comme on en a déjà parlé, Nico, on peut se dire que OKC a ramené un deuxième chien de garde, j'ai envie de dire, en défense, parce que Lisa, c'est pour ça que je t'en parlais, c'est Thabo Sefolosha, ton compatriote, là, va se trouver un ami défenseur capable de jouer comme lui une grosse défense, qui peut s'avérer très utile en playoff, je crois.
Ben oui, c'est sûr, mais après, faut voir aussi sa capacité à scorer, parce que c'est vrai que sans non plus le mettre trop en avant, Thabo Sefolosha a cette capacité offensive et défensive. Donc après, faut voir aussi s'il peut s'intégrer correctement dans le collectif du Thunder.
Non, d'accord. Je suis pas trop d'accord.
Juste, rapidement, pour Lisa, Thabo Sefolosha cette semaine, carry her high, j'ai envie de dire, non?
Carry her high. Exactement. Alors,
ce que c'est quand on voulait dire, c'est meilleure performance au scoring en carrière.
Il a tout
Donc ça a dû vous faire plaisir, ça, du côté de la Suisse, non?
Bah c'est clair, hein, même. Bah,
c'est un jour férié maintenant, j'en ai en
Bon, doucement un peu là. Hein.
On voulait signaler le reste de l'année les Suisses. Je savais pas.
Oui.
Bon, on va pas aborder ce sujet, je pense.
Non, mais donc c'est Folochat, donc 28 points cette semaine, donc fallait souligner quand même, Jean-Bion.
C'est vrai, c'est gentil de le faire.
Voilà, et donc Ronnie Brewer, ça va nous apporter tout ça, OK, ici, hein, une bonne défense, j'ai envie de dire, avec Thabo Sefolosha, non?
Oui, bah c'est clair, hein. Ouais, on attend de voir ce que ça donne.
Je voulais juste dire, Ronnie Brewer, c'est peut-être pas offensivement ce qu'apporte Thabo Sefolosha, qui est pas non plus exceptionnel, hein. Mais je pense que là où il peut servir, c'est sur un match de playoff, quand Thabo va se prendre 5 ou 6 fautes, t'as un Ronnie Brewer qui peut assurer le job défensivement, et offensivement, t'auras quand même Kevin Durant, Russell Westbrook et les autres pour faire le travail, quoi.
Ok, donc tout de suite pour clore Ronnie Brewer, on va dire que c'est quand même un beau coup là de Sam Presti d'avoir récupéré Ronnie Brewer contre un second tour de draft. D'accord. Ok.
J'imagine que c'est ce qu'on vient de dire depuis 4 minutes en fait, mais ouais.
Ouais, très bon.
C'est un bon coup.
La transition est toute faite pour Eric Maynor.
Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Je le voyais justement tout de suite. Eric Maynor, donc là, c'est très bon coup des Blazers, quoi.
Oui, oui. Mais surtout, c'est ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'Eric Maynor, quand même, pendant un moment, on en parlait un petit peu, si ce serait pas bien comme titulaire un peu plus présent. Exactement. À Oklahoma City. Je crois que c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça, bah, avant qu'il se blesse, en fait. Et là, on va pouvoir voir un peu et là, justement, cette année, on le voyait plus. Il était revenu de blessure et il touchait plus trop le terrain. Du coup, on savait pas trop ce qu'il était devenu. On sait pas tout. C'est un peu dur de comprendre comment un joueur qui était pas loin de passer d'un titulaire à un vrai sireur de banc. Là, ouais, il va pouvoir relancer sa carrière et on pourra voir ce que ça donne.
Ma question est de savoir si les Blazers vont, il va pas être gêné par Damian Lillard.
À mon avis, l'intérêt aussi, c'est que Maynard et Lillard sont très différents, sont devenus quand même très différents. Lillard est quand même vraiment plutôt un scoreur, c'est pas du tout un gestionnaire de jeu, alors que Maynard est beaucoup plus dans ce registre-là.
Ouais.
Du coup, pourtant, on va pouvoir jouer un peu sur ces deux tableaux, je pense.
Moi, ça me fait penser un peu à Golden State quand Mark Jackson évolue beaucoup avec à la fois Jared Jack en meneur et Stephen Curry décalé sur le poste 2 en fait. Je pense que Maynard c'est vraiment un très bon gestionnaire. En playoff en 2011, c'était parfois lui qui finissait les matchs à la place de Russell Westbrook. Et Portland a fait un gros coup, je pense, surtout avec le banc assez médiocre qu'ils ont.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer justement que quelques sur certaines séquences, Stotts pense à mettre Lillard en 2 et Maynard en 1.
Bah, c'est une possibilité, mais ça veut pas dire que Lillard va pas toucher de ballon ou quoi.
Non, c'était juste une question pour savoir si Eric Maynard peut récupérer du temps de jeu. C'est dans cette configuration-là, j'ai l'impression, puisque Terry Stotts, le coach des Blazers, est plutôt, lui, du genre à laisser 40 minutes ses stars sur le terrain à son 5.
Je pense que les autres vont pas me contredire. S'il les laisse 40 minutes, c'est parce qu'il y a personne sur le banc.
Oui, c'est voilà. Ça, oui.
Non, mais là, de toute façon...
Il va peut-être mettre un peu moins de temps à Lillard et faire un peu plus jouer Maynard pour reposer justement un peu aussi le rookie, parce que c'est quand même qu'un rookie, donc on peut s'attendre à un moment donné qu'il ait peut-être un petit moment de creux aussi. Donc je pense que c'est un bon ajout pour Portland à ce niveau-là.
Très bien, très bien.
Là, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez pas que finalement Eric Maynard aurait quand même une bonne recrue pour Boston à la place de Jordan Crawford?
Bah, si tu veux.
Question sujet sensible.
Non, pas sujet sensible, mais dès la blessure de Rajon Rondo, j'ai pensé à lui en fait. J'ai fait ma campagne.
Ouais, je vais l'annoncer là tout de suite. Dès la blessure de Rajon Rondo, Guillaume est venu me voir directement, a contacté tous les réseaux sociaux possibles. Il m'a dit, il nous faut Eric Maynard, c'est lui qu'il nous faut. Ouais.
Voilà. Non, parce que enfin moi j'avais le souvenir de lui. Enfin, hein, très très bon joueur. Ah ok, si, qui cirait le banc parce que Scott Brooks lui préfère Reggie Jackson. Bon, enfin, ça reste un très bon joueur. Après, si vous me permettez, je pense que j'ai vu les derniers matchs de Boston là. Ils ont recruté Terrence Williams, qui, moi, il m'a étonné. C'est un assez bon gestionnaire. Ouais.
Voilà. Et moi aussi, il m'a étonné sur le match face aux Suns en termes d'altruisme.
Il joue meneur. C'est le meneur remplaçant en ce moment, Terrence Williams.
Voilà. Et c'est Jason Terry n'avait peut-être pas tort en disant que justement il pourrait apporter beaucoup plus que ce qu'on pensait.
Ouais ouais. Mais moi j'étais très surpris.
Là n'étaient pas les questions au final, mais c'est vrai qu'on peut le souligner.
Voilà.
Pour finir, on va donc JJ Redick aux Bucks en provenance du Magic. Donc là le deal, il y a eu un deal avec Josh McRoberts aussi qui venait des Bobcats. On a eu le trade de Beno Udry, de Hakeem Warrick, de Gustavo Ayon, Ish Smith. Il y a eu quand même un petit bordel là entre le Magic et les Bucks et
Charlotte.
Et les Bobcats, pardon. Donc qu'est-ce que JJ Redick, qu'est-ce qu'il va nous faire lui à Milwaukee là?
Bah il va apporter du shoot, hein. Ça fera toujours du bien dans cette équipe. On a vu avec Mike Dunleavy avoir des shooters autour de Jennings et Ellis, c'est bien, c'est toujours bien. Après, je pense pas que ça va faire vraiment passer un cap à cette équipe des Bucks non plus.
Non,
Lisa, qu'est-ce que tu peux nous dire là sur le deal là?
Ben je comprends pas en fait l'optique des dirigeants en fait des Bucks. Parce que on sait qu'à la fin de la saison, ben Didi Reddick et Brandon Jennings, ils seront free agent et Monta Ellis aura une option pour la saison suivante. Donc les dirigeants, ils auront des choix à faire cet été. Et donc ils auront assez de salary cap pour pouvoir re-signer tout le monde, mais après je vois pas en quoi ça amène d'amener des joueurs en fin de contrat, je sais pas ce qu'ils veulent en faire en fait.
Est-ce que sur la masse salariale a priori puisqu'ils échangent des joueurs qui prenaient quelques millions.
Est-ce qu'il y a aussi une petite optique pour les playoffs avec en ajoutant un shooter parce qu'on sait que Milwaukee va sûrement entre guillemets faire les playoffs. Est-ce qu'il y a une petite optique là à se dire tiens un shooter ça peut être intéressant.
Bah oui, c'est un plus hein quand même pour les playoffs d'avoir un shooter propre quand même comme JJ Redick. Je pense que ça peut être un atout pour les playoffs. Après, comme Lisa dit, ils vont à la fin de la saison, ce sera peut-être compliqué. Mais à mon avis, moi, Redick, ils le re-signeront que s'ils n'arrivent pas à garder Jennings. Donc, je pense qu'après, ça sera des choix qu'ils feront à la fin. Mais en tout cas, pour les playoffs, moi, je trouve que c'est un bon atout, Redick. Très bon atout. C'est un joueur propre qu'on n'entend pas. Il fait le taf.
Oui, Guillaume. L'intérêt d'avoir ce joueur en fin de contrat. Excuse-moi, Guillaume.
Vas-y,
Nico.
C'est que... Effectivement, ils vont pouvoir jouer cette année, voir un peu ce qu'ils font avec un joueur comme lui, et voir si ça leur permet d'aller plus loin en playoff. En même temps, ils ont rien à perdre, parce que si ça marche pas, ils pourront le bazarder cet été, puis ils auront de la flexibilité salariale pour pouvoir vraiment recruter du mieux, quoi. Enfin, s'ils peuvent.
Oui, exactement. Ouais. C'était pas négatif de le prendre. Là, il leur reste 3 mois, et puis voilà, après, ils verront bien si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas.
Ouais, Guillaume, tu veux conclure là-dessus?
Ouais, je suis d'accord avec Nico, en fait, je pense que c'est un plan à court terme, et c'est-à-dire qu'ils ont pris JJ Redick, ils ont pas non plus donné quelque chose en échange d'énorme, hein. On s'attendait peut-être à Brandon Jennings ou quoi, ils ont rien lâché de trop important, et puis ils vont faire tranquillement les playoffs avec un JJ Redick à mettre 2-3 shoots, mais ça va pas plus loin, quoi.
D'accord, très bien. Bon, on va. Si vous avez pas d'autres trades là à nous parler, on va pouvoir clore là-dessus. Et puis on va passer. Oui, Nico, t'as peut-être un trade.
Ouais, on a passé un peu vite sur Thomas Robinson à Houston. En fait, je sais pas. Ce serait intéressant de voir si vous pensez que c'est un bon trade pour Houston ou pas.
Ouais. Moi, enfin, potentiellement, le garçon, il est quand même assez fort, quoi. On l'a annoncé comme le joueur le plus mature mentalement et physiquement de la draft. Bon, il a pas eu de chance, il est tombé à Sacramento.
C'est ça,
dans l'équipe la plus immature de la NBA.
Quand je pense que les Cavs auraient pu le prendre, par exemple, moi, c'est, enfin, bon, bref. Mais, et surtout à Houston, il y a quand même Royce White, il y a quand même Terrence Jones, et maintenant il y a Thomas Robinson, ça fait quand même 3 rookies qui sont potentiellement futurs de la franchise à l'intérieur. Bon, je sais pas, à voir.
Bah écoutez, moi on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que le coup de faire revenir Tony Douglas à Houston, je vois pas du tout l'intérêt. À Sacramento, je vois pas du tout l'intérêt. Sacramento devrait peut-être arrêter d'amasser les arrières et commencer à construire quelque chose de crédible plutôt que d'assembler comme ça des arrières avec des arrières avec des arrières avec c'est chiant, quoi.
Je pense qu'il devrait prendre exemple sur Washington qui a fait un bon ménage, qui se retrouve aujourd'hui avec un effectif pas si mauvais que ça.
Oui, ben c'est ce qu'il devrait faire, mais je pense pas que les dirigeants soient prêts à Sacramento. S'il y avait quelque chose à faire, c'est dès il y a 3-4 ans qu'il aurait fallu le faire. Maintenant, je crois que qu'est-ce qu'ils vont faire de tous leurs contrats, de Jimmer Fredette, etc. Enfin, je vois pas l'intérêt.
Ouais.
Voilà. Nico, t'avais peut-être quelque chose à dire, toi.
Oui, peut-être pour revenir à Houston, ce qui est intéressant aussi, c'est que Thomas Robinson, potentiellement, il apportera peut-être plus de défense et d'énergie que Patrick Patterson et Marcus Morris. Il faudra voir un peu ce que ça donne par rapport à cette équipe, si ça apporte vraiment un plus qui est différent, en fait, un truc dont on avait peut-être plus besoin cette équipe. Et là, on va avoir quelques mois pour voir ce que ça donne. Je pense aussi qu'il y a un autre intérêt derrière, c'est que ça fait de la place. Pour un ailier fort comme Josh Smith l'année prochaine, par exemple.
Oui, c'est ça.
Et même s'il n'y arrive pas, bah, ils ont toujours sous la main un joueur qui potentiellement, en Thomas Robinson, qui potentiellement pourra devenir un pilier de la franchise. Du coup, ils jouent un peu sur deux tableaux. La possibilité de prendre un free agent cet été de bon calibre comme Smith, Josh Smith ou Paul Millsap, par exemple.
Dwight Howard aussi,
tout en ayant sous la main un gros espoir.
Ouais, parce qu'on peut rappeler que Houston a quand même toujours des vues sur Dwight Howard. Hein.
Ouais, toujours. Même sur LeBron James, ils n'ont pas lâché depuis 2010, je crois.
Non, mais c'est vrai que les Rockets n'ont pas l'air d'en démordre avec Dwight Howard, même si la franchise californienne annonce que c'est le futur de la franchise.
Après, je pense qu'ils espèrent avoir un peu plus de crédit l'été prochain, vu qu'il y a Harden qui est là et qu'ils vont faire les playoffs.
Ils vont sortir sûrement d'une très bonne saison. Donc, voilà.
Donc ils pensent qu'ils auront les arguments, encore une fois, de meilleurs arguments pour attirer Howard.
Mais il y a des arguments à Houston quand même, hein, entre Jeremy Lin, James Harden, quand même un duo là avec les
Chandler Parsons aussi, pas mal.
Chandler Parsons, mais je voulais dire, on a quand même un duo là, nos amis qu'on appelle les Rush Hour sur le web. Je trouve qu'on a un beau duo là-dessus, et construire autour de ça, ça peut être une très bonne idée. Mm. Bon, enfin bref, si vous voulez, on va clore là-dessus. Je voudrais juste rappeler rapidement des trades dont on ne parlera jamais et dont on n'a pas parlé, et que je vais quand même mentionner. Donc Charles Jenkins aux Sixers, ça faut le dire quand même, c'est quelque chose d'énorme.
C'est financier.
Contre un second tour de draft. On a Hakeem Warrick donc contre Josh McRoberts, voilà, entre le Magic et les Bobcats. On a eu aussi Dante Jones qui est parti des Mavs pour l'arrivée d'Anthony Morrow. Donc voilà, ces choses-là, il faut en parler, il faut les préciser, parce que
disons que c'est des joueurs dont on parle jamais, donc tant qu'à faire, il y a un peu de news sur eux, faut un peu
là. Ouais, mais faut pas trop réagir non plus là-dessus, parce que
voilà, donc
Sébastien Telfair quand même.
Et Sébastien Telfair, oui, d'ailleurs qui est des Raptors là, qui est arrivé aux Raptors.
Contre
Ahmed Haddadi, un second tour de draft. Sébastien Telfair, hein, si tu nous entends, continue de mordre la balle, ça te réussit. Allez, on arrête tout de suite et on va passer au gros sujet sur les Lakers. À tout de suite. Rose crosses over the fadeaway. Oh my god, it's over. Et voilà le retour tout de suite pour parler des Lakers. Le gros format aujourd'hui, c'est les Lakers. Donc, qui de mieux, j'ai envie de dire, pour en parler que Laurie. Laurie,
oui.
Est-ce que tu peux... Voilà, bon alors, ça y est, enfin, l'heure de gloire.
L'heure de gloire est enfin arrivée, ça y est.
Voilà. Alors, les Lakers, là, qui vont un petit peu mieux, j'ai l'impression, là, depuis un petit moment.
Ouais, ça va mieux quand même. Ouais. Là, ils sont sur 2 victoires de suite. Ils ont gagné contre Portland, qui est quand même un concurrent direct pour le dernier spot en playoff. Moi, ce qui me fait peur, c'est le prochain match contre les Mavs, parce que les Mavs, là, je regarde un peu les stats, ils sont juste derrière, apparemment. Ils sont aussi sur une bonne dynamique. Donc, mais moi, je crois en mes Lakers en playoff. Hein. J'y crois dur comme fer.
Comme Kobe, toi, tu as l'impression que les Lakers vont faire les playoffs?
Moi, j'ai l'impression qu'ils vont choper le dernier spot quand même, ouais. Je pense que là, ils sont dans une bonne dynamique. Là, j'ai l'impression qu'ils trouvent de plus en plus un peu ses marques. Sur les derniers matchs que j'ai vus, je trouve que ça y est, il prend enfin taille patron un peu plus. Donc après, tout dépendra de la santé de Howard, quoi. Mais
ouais, parce que justement, Howard nous a déclaré aujourd'hui dans la presse que sa condition physique était en partie, il prenait en partie la responsabilité de certaines défaites à cause de sa condition physique. Est-ce que vous l'avez ressenti vraiment
Ah oui, je pense que ça paraît évident.
Bah moi perso, je suis pas étonné. Hein. Bah oui, bien sûr. C'était sûr qu'il ferait pas un bon début de saison vu son opération et tout. C'était sûr. Nico, je sais pas ce qu'en pensent les autres.
Ça se voit, son jeu est quand même énormément basé sur les qualités athlétiques. Et notamment défensivement, pour tout ce qui est aide et intimidation, il a un temps de retard à chaque fois. Du coup, son impact défensif est largement diminué. Alors que les Lakers manifestement comptaient beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus. Parce que Steve Nash et compagnie, bon, et Jamison, c'est un peu lamentable en défense quand même, pour être honnête.
Un petit peu, t'es sûr, un petit peu.
Un petit peu, ouais.
Beaucoup, j'ai l'impression.
Et voilà, et Dwight Howard qui n'arrive pas du coup à être Dwight Howard, et puis à cause de son physique, hein. Et du coup, effectivement, là où les Lakers pêchent le plus, c'est en défense, et ça se ressent douloureusement.
Là où je suis d'accord avec Nico, c'est que en début de saison, je pense que les Lakers attendaient de Dwight Howard qu'il équilibre un peu le jeu très offensif de D'Antoni par ses qualités défensives, qui comble les brèches un peu, comme t'as dit, puisque Steve Nash dans le périmètre, c'est vraiment pas fameux. Et au final, ouais, physiquement, il est pas bien, ça se voit défensivement. Néanmoins, sur les 2 derniers matchs, je l'ai vu pas mal offensivement. Je trouve qu'il joue de mieux en mieux avec Steve Nash. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, je trouve qu'il commence à avoir une petite entente.
Oui, bah d'ailleurs, Steve Nash l'a un peu engueulé, quoi, si je peux dire.
Ouais, oui.
Par rapport à la pose de ses écrans, en fait. Et mine de rien, les fondamentaux, on voit que là, ça sert, parce que avec des écrans bien posés, tout de suite, Steve Nash, il peut un peu plus mettre le bazar dans les défenses et servir le grand bonhomme.
Ça a été le cas contre Boston, et d'ailleurs, c'est bien parce que Jeff Van Gundy l'a très très bien souligné tout le match.
Du coup, on va se reconcentrer sur la question du jour. Les Lakers vont-ils faire les playoffs? Lisa, qu'est-ce que t'en penses?
Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Lakers, c'est vrai qu'on voit pas les playoffs sans eux. Et moi, j'aimerais bien, pour le fun quand même, qu'ils accrochent cette 8e place et qu'ils fassent les playoffs. Bon, on dirait qu'ils ont eu vraiment un déclic il y a quelques temps. Le début de saison peut leur être fatal, mais je pense que ce sont quand même les Lakers qui vont quand même pouvoir remonter tout ça pour être dans les playoffs. Donc moi, je dis les playoffs avec les Lakers.
Mais vous savez que quand même pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce d'entraide entre les Celtics et les Lakers cette saison. mais c'est un truc de fou, c'est que j'ai l'impression que chaque fan de chaque équipe a voulu se disait entre guillemets, oh, je vois pas les playoffs sans eux. C'est pas moi personnellement, je voyais pas les playoffs sans les Lakers, et j'ai deux trois gens que je connaisse qui sont fans des Lakers qui m'ont dit ah, j'imaginais pas quand même les playoffs sans les Celtics. Quand même, je trouve que ce genre de choses, ça rapproche.
Ouais, historiquement quand même, c'est quoi, c'est 33 titres je crois, eux deux.
17 de 17 et 16, donc ouais, voilà, c'est vite fait.
Ouais, et puis les rivalités, ça apporte tout le temps un piment particulier, notamment pour les équipes en question. Du coup, forcément, moi, je suis sûr que Boston n'arrive que d'une chose, c'est d'en rencontrer les Lakers en finale, et réciproquement. Hein.
Et oui, et en début de saison, c'était le fan de beaucoup, parce que il y a eu le transfert de Howard et il y a eu la bonne fin de saison de Boston. Mais je voulais juste te dire, c'est pas le rêve que des fans, c'est aussi le rêve des mecs à TNT, à ESPN, que qui est les Lakers et Boston en playoff.
Un rêve pour l'NBA.
Ouais. Parce que ESPN, s'il y a Boston, ça fait quand même un peu plus de vues, ou s'il y a Los Angeles, ça fait plus de vues que s'il y a Milwaukee.
C'est ça, exactement. Pour revenir aux Lakers, j'ai envie de vous dire qu'on a vu l'émergence d'un joueur ces derniers temps, Earl Clark.
Oh non.
Earl Clark, si, je suis désolé de le dire, mais qui a fait ces derniers temps un bon travail. Et Kobe l'a même félicité et en disant que justement, sans lui, il y a certains matchs qui ont été perdus. Laurie, est-ce que c'est vrai?
Bah, c'est vrai que je trouve qu'il tient bien la baraque, mais après, moi je pense que s'il est sorti un peu de son cocon, c'est parce qu'il y avait personne pour occuper la place, donc il a su bien se montrer. Donc très bien, il fait le boulot, il est, mais après voilà, ce sera pas un des grands joueurs des Lakers, hein, après. Bon.
Oui, il est bon. Justement, est-ce que vous pensez qu'on le retrouvera en playoff, ce joueur?
Bah, si oui, les Lakers sont en playoff, il sera en playoff.
Moi, je pense qu'il s'irra le banc de plus en plus, hein. Moi, je pense. S'ils vont loin, au fur et à mesure, s'ils vont loin, c'est que Howard et compagnie, joueront très bien. Et du coup, Earl Clark ira de plus en plus sur le banc.
S'ils vont loin, c'est parce que Earl Clark ne jouera pas. Je pense.
Ah oui, t'es comme ça, toi.
Ben non, mais s'ils vont loin, ça veut dire que Pogazol est revenu et en bonne forme. Ils feront pas une finale de conférence, oui, voilà, sans Pogazol ni Dwight Howard, quoi.
Exactement, et donc Earl Clark ira sur le banc.
Parce que on va peut-être pas commencer à parler de finale de conférence, hein.
Non, ouais. Non, bien sûr, non, mais là on imagine, hein, c'est pour le fun. Non, moi je.
Non, mais l'utopie, on a le droit. Je pense que les rêves.
J'ai rien contre le garçon, c'est un bon joueur, il peut faire pas mal de choses. Mais après, cette enflammade qu'il y a eu autour de lui, je la trouve pas forcément justifiée. C'est un bon joueur, d'accord. Mais dire qu'il a sauvé certains matchs, je tiens juste à rappeler qu'il a été mis dans le 5 de départ. Parce que Pogazol est la tête de turc de Mike D'Antoni.
Faut pas louper. Parce que Jamison, il vaut pas un cachou aussi. Hein.
Également.
Nico,
oui, d'accord, mais
si
il a quand même fait le taf.
Oui, mais il a fait le taf. Moi, c'est un bon joueur, mais je suis pas d'accord avec tout l'engouement qu'il y a eu autour. Quoi.
D'accord, Nico, tu vas me dire, mais on n'a pas eu une petite déception là justement sur Jamison.
Ça dépend. Qui attendait de Jamison, honnêtement.
Les Cavs en 2010.
Ouais, mais ça fait quand même 2-3 ans que. Qui joue en travers, hein, qui tourne avec des mauvais pourcentages, qui il a jamais été un gros défenseur et là ça devient assez marrant. du coup, c'est un nom, mais le problème c'est que c'est un nom du passé un peu pour l'instant. Du coup, je pense pas qu'il fallait attendre grand chose de lui. Là, il fait que ce qu'il fait depuis 2 ans, hein, donc c'est pas étonnant.
C'est-à-dire, je pense que les autres vont pas me contredire. Il y a eu le gros marché des transferts des Lakers cet été avec Dwight Howard, Steve Nash, et quand Jamison a été recruté, il a été inclus dans toute cette hype, cet engouement, alors qu'en fait c'est un bon joueur mais pas plus. Mais comme c'est Los Angeles et comme il y a eu ce gros recrutement, on dit ouais, le Big Five plus Jamison et Jody Mix sur le banc, alors qu'en fait il est plus extraordinaire, quoi.
Non, c'était surtout par rapport au fait que Jamison sortait d'une saison folle avec les Cavs. Bon, on sait que c'était surtout parce qu'il n'y avait personne non plus aux Cavs pour voilà, mais Jamison avait porté l'équipe quand même la saison passée en mettant 20 points par match, en voilà, c'était un petit peu le fer de lance de l'équipe, ouais, des Cavaliers. Bon,
20 points à 40% à côté à Lonzo Guy qui tournait à 10-15 points aussi, hein, donc
oui, non, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'il y avait de l'engouement pour ce joueur.
Antoine, au Cavs, l'an passé, même Chablin Mack, il mettait 20 points par match.
Non, mais Jamison, ça reste un très bon scoreur, qui a une très mauvaise sélection de tir, depuis quelques années, n'arrive pas à atteindre un bon sens à le tir. Ça reste un joueur talentueux. Seulement, il a quoi? Il a plus de 35 ans maintenant, et puis, tous les défauts qu'il avait avant, donc la défense, la sélection de tir, n'ont fait que s'aggraver. Donc, je suis toujours convaincu qu'il peut tourner à 15-20 points dans une très mauvaise équipe. Mais là, on voudrait qu'il fasse gagner une équipe.
Il y a un autre joueur de qui on attendait beaucoup, c'était Jody Mix.
Ouais, je sais pas qui attendait beaucoup.
Oui, moi, franchement, j'attendais pas grand-chose. Je trouve que finalement, sa saison est plutôt positive. Hein. Je m'attendais pas grand-chose de joueur. Hein. Si à s'enflammer à 3 points comme il sait faire des fois, je trouve qu'il est pas si décevant que ça, finalement. C'est peut-être parce que j'en attendais rien en même temps, mais
Ouais, donc en fait je suis tombé sur les seuls qui n'étaient pas de mon avis, en fait, c'est vous.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Non parce que moi Jamison et Mix, excusez-moi, mais quand ils sont arrivés, tout le monde m'a dit énorme, ça va être un bond de fou.
C'était pris dans l'engouement de cet été avec le gros recrutement. Mais c'est des joueurs moyens, on va dire.
C'est toujours plus médiatique aussi, hein. C'est Los Angeles, c'est pas Milwaukee.
Oui, c'est clair.
C'est normal, ça fait toujours plus de hype, même pour les joueurs.
Soyez pas trop désagréable quand même avec Milwaukee, hein.
Non, après, Antoine, pour revenir à la question initiale, parce que c'est, est-ce que les Lakers vont faire les playoffs? Si tu regardes le classement, il y a Utah et Houston qui sont à portée de main. Utah, j'y crois pas du tout, mais force est de constater que c'est un groupe qui tourne bien en saison régulière. Et Houston, à mon avis, ça va accrocher les playoffs aussi. Donc bon.
Voilà. Donc là, on va parler, alors, en termes de chiffres et de classement. Lisa, est-ce que d'après toi, les Lakers, là, peuvent redresser la barre et reprendre le manque qu'ils ont sur Utah et Houston?
Clairement, parce que là, leur bilan est à 27 victoires contre 29 défaites. Ils sont dans une bonne période. Donc, à mon avis, ça va s'équilibrer et ensuite le bilan des victoires sera beaucoup plus élevé que celui des défaites parce que maintenant on voit que la Steve Nash est revenu, Dwight Howard bon un petit peu blessé mais c'est bon, il va guérir comme d'hab et Pogasol, on compte pas vraiment dessus mais moi j'y crois aux Lakers.
Mais est-ce qu'on dit pas depuis des mois maintenant que ah ça y est maintenant la machine va se mettre en route? Moi ça fait un moment que j'entends ça.
Pas forcément, ils étaient blessés les joueurs. Hein.
Oui mais dans le jeu, si tu regardes le jeu des Lakers, ils jouent quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques mois.
Mais
ça joue mieux maintenant.
Houston joue pas mal aussi, Utah aussi.
Ah, Houston joue très bien.
Eh oui.
Pour moi c'est Utah qui va pas faire des playoffs.
Bah, Utah, entre nous, j'ai envie de vous dire, Utah est 7e devant Houston avec deux défaites de moins quand même. Hein.
Ouais non mais Utah c'est l'équipe que personne n'a envie de voir en playoffs, mais qui y seront quand même.
Bah moi j'ai l'impression que oui hein, parce que Utah ça reste quand même assez constant. Donc même s'ils peuvent enchaîner là ils sont à 31 victoires 25 défaites. Donc même s'ils enchaînent admettons 3 défaites, 3 victoires ceci, de là Utah ça restera quand même dans les 8 premières places.
Je pense aussi oui.
Donc
là c'est Houston. Moi j'y crois pas, je pense que Houston va faire les playoffs hein.
Bah, Houston aussi.
Donc pas de place pour les Lakers peut-être.
Bah je pense pas. Non mais enfin après c'est difficile à dire parce que ça peut aller très vite hein. Une série de victoires, une série de défaites. On peut pas prédire derrière nos écrans d'ordinateur qu'est-ce qui se passe dans le groupe des Lakers ou à Utah ou à Houston. Mais pour l'instant, je pense que Houston a quand même un très bon effectif, une bonne dynamique. À voir si cette dynamique est cassée par le trade de Thomas Robinson. Mais je mettrais plutôt une pièce sur Houston en tout cas en ce moment.
Mais je pense que les Lakers c'est peut-être l'équipe la plus imprévisible de l'année, la plus difficile à prévoir. Quelles vont être ses performances? Parce que je veux dire, cette équipe, c'est un véritable soap opera.
Ouais, c'est un TV show.
De stars, des problèmes internes qui sont visibles, des problèmes dans le jeu aussi, des défenses qui viennent, même un jeu offensif qui de temps en temps est très très beau, très 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 avancé, et des fois ça ressemble assez à rien. Au début de l'année, ça ressemblait à des poulets qui couraient sans tête, quoi.
J'avais beaucoup aimé ton expression justement là-dessus. J'aime bien, franchement j'aime bien le poulet à qui on a coupé la tête et qui court dans tous les sens. C'était ça un peu l'esprit des Lakers en début de saison.
C'est ça. Alors ils trouvent quelque chose, mais il y a toujours les blessures de Ward et je crois que la relation avec Kobe et Dwight est toujours un peu
tendue.
Est-ce que le triangle amoureux là entre Mike D'Antoni, Kobe Bryant et Dwight Howard, c'est pas vraiment le fond du problème des Lakers?
Tu peux rajouter Pogasol aussi en maîtresse.
Oui, mais Pogasol, je l'oublie en attendant, mais oui, on peut rajouter Pogasol.
Mais c'est ça, il y a une dizaine d'histoires entremêlées, on a l'impression, c'est vraiment, quand je dis c'est un soap opera, c'est pas pour plaisanter.
Ouais, ouais.
Ça part de loin, ça part d'une équipe immense, façon NBA 2K, construit une saison qui finalement se vautre, hein, parce que là, on est quand même en train de se demander s'ils vont être qualifiés au playoff. Je sais pas si vous vous rendez compte, on parle un multi All-Star, enfin, c'est n'importe quoi, tout ça. Et là, on sait pas ce qui va se passer. Tout d'un coup, ils peuvent trouver une sorte d'alchimie ou quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, on peut trouver un peu un jeu et puis tout foutre en l'air d'une autre manière. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que Steve Nash, là, il a pas l'air très confortable quand même. Il a pas l'air très à l'aise.
Non, non.
De temps en temps, on voit le vrai Steve Nash, mais c'est vraiment épisodique au cours d'un même match. Dwight Howard, c'est pareil. Et que Brian, qui est le plus grand acteur de cette série télé, parce qu'il commence à faire des passes, quoi. Comment on peut prévoir ce que cette équipe va faire d'ici les mois qui lui restent?
C'est tout à fait exact.
Là, je ne saurais que dire de plus. Là, tu m'as coupé le sifflet, là, Nico.
Juste une chose, c'est à propos de Steve Nash. Tu parlais, on voit parfois le vrai Steve Nash. Mais c'est quoi le vrai Steve Nash? C'est le Steve Nash d'il y a quelques années. Mais est-ce que ces deux dernières années, il a été à Phoenix? Bon, il a fait des jolies stats, mais Phoenix n'était vraiment pas une bonne équipe. Alors je me dis, est-ce que on n'a peut-être pas vu Steve Nash meilleur qu'il ne l'est vraiment?
T'as sans doute un petit peu raison, parce qu'il commence à vieillir le bonhomme. De notre côté, le signage d'avant avec je sais pas si tu te souviens des joueurs qui avaient autour de lui, c'était pas Folklo.
Non, c'était pas Folklo, mais
il a Earl Clark maintenant à ses côtés.
Ça change tout.
Sans rire, je pense que l'an dernier le pick and roll avec Martin Gortat était quand même très très efficace et je le répète encore une fois, dans une mauvaise équipe, c'est quand même un peu plus facile de faire des bonnes stats.
Oui, mais Steve Nash, au minimum, on lui demanderait presque juste de faire le jeu, ça suffirait. On ne lui demande pas de devenir le MVP qu'il était.
Non, bien sûr. Là, est-ce que, comment tu peux faire le jeu alors que la moitié des ballons, au moins, doivent passer par les mains de Kobe Bryant?
Ça, il fallait y penser avant de recruter, hein.
Mais il fallait y penser avant, mais, les Lakers n'y ont pas pensé, apparemment. Ou alors, on s'en dit que ça va marcher, mais forcément.
Moi, de toute façon, j'y croyais pas à Steve Nash, aux Lakers. Excuse-moi, Guillaume, de te couper.
Non, mais
j'y croyais pas à Steve Nash aux Lakers. C'est finalement ce qui montre, je suis pas étonné, hein. Il arrive pas à trouver ses marques. Il y a Kobe Bryant à côté qui a un bouffeur de ballon, qui a envie d'être patron et qui veut pas lâcher le ballon. Donc, avec un mec comme Steve Nash, ça peut pas marcher. C'est sûr. Et je suis pas sûr que ce soit le patron sur le terrain, d'ailleurs, Steve Nash. Est-ce qu'il est le genre à gueuler ou quoi que ce soit? Je sais pas trop.
Lisa, est-ce que Steve Nash est un peu surcoté d'après toi?
Clairement, ouais. Il a eu des très belles années à Phoenix, mais comme vous avez dit, ces dernières années, l'équipe était tellement faible, donc c'est facile de faire des bonnes stats. Et en venant aux Lakers, c'était plutôt un pari risqué, parce qu'il y a déjà tellement des fortes personnalités, des joueurs qui ont leur place, typiquement Kobe Bryant, chez qui... peut-être 80% des ballons passent, c'est pas possible de mettre un aussi bon joueur que Steve Nash qui monte le jeu, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est vrai que par rapport à ce trade, surcoté, et maintenant, on ne retrouve plus le Steve Nash qu'on a connu il y a des années en arrière, quoi.
Après, je sais pas si on peut dire surcoté. Vous pouvez me rappeler l'âge du garçon?
Il y a un terme assez négatif péjoratif que j'aime pas dans surcoté, mais clairement, ils l'ont vu meilleur qu'il ne l'est.
Oui, mais n'oublie pas qu'il a 38 ans quand même.
Bien sûr.
Et à 38 ans, c'est quand même extrêmement impressionnant ce qu'il fait, je trouve.
Oui, non, mais c'est...
Sachant qu'il est en train de jouer dans un style de jeu où il a pas la balle autant qu'avant, et c'est inédit pour lui tout ça. Hein. Donc il s'en sort pas si mal. Je jetterai plus la pierre aux dirigeants de la franchise californienne pour dire bon c'est un nom, on le prend, on verra bien ce que ça donne.
Après tu parlais des Lakers très imprévisibles. À l'instar de cette équipe, Kobe Bryant est très imprévisible. Tu sais pas si soir après soir, il peut très bien prendre 30 shoots, ou alors ne prendre que 5 shoots et essayer de distribuer des passes le plus possible. C'est vraiment imprévisible. Et encore une fois, je reviens Jeff Van Gundy là sur ESPN, très intelligent le mec, qui disait il faut pas qu'il soit l'un ou l'autre, il faut qu'il soit les deux et qu'il fasse les bons choix au bon moment. Et Kobe n'a pas encore été capable de le faire, ça.
Il est capable de le faire. Ça, c'est tout ce qu'on lui a reproché pendant très longtemps, hein, c'est d'être pas être capable de jouer juste. On loue son intelligence de jeu, sa compréhension, tout ça, mais il a jamais vraiment joué aussi juste qu'il aurait dû. Je sais plus qui avait dit une phrase intéressante, qui disait Kobe, il comprend mieux le jeu qu'il ne le joue. Et c'est exactement ça, à mon avis. Peut-être il comprend tout bien, peut-être il voit tout, il voit toutes les failles, tous les machins, juste il se dit, ouais, mais j'aurais quand même plus de chance à marquer si c'est moi qui prends le tir que si je la donne à mes coéquipiers. Et ça, c'est ce qui, à mon avis, l'empêche d'être au niveau d'un certain numéro 23.
Ouais, peut-être. Justement, pour clôturer un peu le truc, là, j'ai envie de troller un peu, j'ai envie de dire, Michael Jordan, s'il avait eu Dwight Howard, Paul Gasol et tout, il aurait gagné au moins 3 titres. C'était le troll du jeu.
Attention, tu vas t'attirer des ennuis.
je rigole, évidemment.
Non, pour finir, est-ce que vous y croyez au Bryant passeur?
Non, mais... Pourquoi tout d'un coup il est passeur? C'est devenu, il en avait marre de voir des NBA memes à son effigie peut-être, mais Kobe Bryant, il est pas fait pour passer, il est fait pour prendre des shoots décisifs et pour faire lui-même le drive pour aller au panier et pas pour faire la dernière passe. Enfin, c'est pas le Kobe Bryant qu'on connaît. Donc moi j'y crois pas du tout. C'est juste un petit effet de mode et puis il va revenir le Kobe Bryant qu'on connaît d'ici quelques matchs.
Et d'un autre côté, c'est assez compliqué pour lui, je trouve, parce que vous vous rendez compte qu'il est dans une situation absolument inédite pour lui. Par le passé, il a tout le temps gagné. Mais il a toujours eu des joueurs de qualité autour de lui. Et quand il les a pas eu, il a péniblement fait les playoffs.
Il a merdé quand il a eu personne autour de lui.
Oui, et là, il a des bons joueurs autour de lui et il galère autant que quand il en avait pas beaucoup. Quand il avait Smush Parker en
2006, ouais.
Du coup, il est en train de se dire, mais c'est peut-être moi le problème, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis vraiment aussi fort que je le dis?
Est-ce que tu penses sincèrement qu'il y a une remise en question comme ça?
Je pense que oui.
T'as vu le nombre de passes qu'il fait?
Ouais, ouais.
Mais je veux dire, c'est un changement.
Moi, j'ai plutôt l'impression que quand il fait ses passes, il regarde le box score. Il se dit, bon, voilà, j'ai fait tant de passes aujourd'hui. On va pouvoir arrêter de me dire que l'équipe perd à cause de moi. J'ai fait tant de passes.
Non,
bon,
je pense pas.
Non, il s'en fiche de ça, Bryant.
Je pense que les grands joueurs, c'est un grand joueur, Bryant, on a beau le critiquer. Les grands joueurs s'en foutent du box score.
Je suppose, là, les amis, ok? Je suppose, donc vous énervez pas.
Juste... T'as peut-être raison, mais l'un va avec l'autre. Hein. Il peut très bien se dire qu'à la fois on va arrêter de me saouler avec mes passes et d'un autre côté dire c'est peut-être ce que l'équipe a besoin.
Oui, mais moi je reviens encore là-dessus. Il faut vraiment qu'il fasse les deux. Il faut pas qu'il se concentre soir après soir sur à chaque fois un truc. Voilà.
Il faut qu'à un moment donné, s'il voit que ses coéquipiers sont dans un bon soir, il faut qu'il leur fasse des passes. Si les mecs se trouvent là, il prend le jeu à son compte. Il faut qu'il puisse alterner, mais qu'il se rende compte à quel moment il doit jouer quel jeu, quoi. Je pense que c'est ça son truc. Hein.
Bon, pour finir, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus pour clore le débat là-dessus?
Moi j'aurais un petit truc à ajouter, ouais.
Vas-y, Lisa, vas-y.
Est-ce que si par exemple les Lakers sont pas en play-off, est-ce que justement ça va être une sorte de déclic pour se dire bon bah maintenant cette équipe faut qu'elle se remette en question, faut qu'on fasse un peu le ménage, arrêter que ce soit vraiment la ville des étoiles et arrêter d'avoir des grands joueurs pour tous les postes, pour tout, et vraiment commencer une équipe avec des jeunes joueurs, parce que mine de rien l'équipe est vieillissante, et de commencer quelque chose de nouveau. Moi je me dis peut-être que s'ils sont pas en play-off, ça va faire un changement d'état d'esprit.
Je pense pas.
Ah non, pas du tout. C'est Los Angeles.
C'est culturel. Les Los Angeles Lakers ne forment pas les joueurs. C'est une cité de stars, c'est une franchise de stars.
Voilà.
Contrairement à Boston, par exemple, il y a vraiment une culture de jouer avec des superstars et de les faire venir dans leurs meilleures années de leur carrière.
D'accord,
ouais, tout à fait.
C'est culturel et historiquement, ils ont jamais. Bon, après, peut-être que on a vu le docteur Jerry Buss est décédé. Là, il faut aussi le dire. Peut-être que ça va changer la mentalité, mais je ne pense pas.
Mais il y a une époque où les Lakers sont pas eu de stars. Vous souvenez cette époque avec Yannick Van Exel? Eddie ouais, Jones,
juste avant le Shaq, c'est ça?
Juste avant. Parce que c'est Los Angeles, ils ont réussi à attirer O'Neal. Mais eux, ils ont quand même une petite période sans star. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant cette équipe qui est toujours capable de se réinventer. En fait, à chaque fois récupérer un énorme joueur et pratiquement sans discontinuer.
Et moi je vois où tu veux en venir, Lisa, et c'est vrai que je me posais la même question. Est-ce que en cas de non-participation au play-off, les Lakers vont être assez intelligents pour se poser la question d'une restructuration, vraiment?
Moi je pense que...
Voilà, c'était ça.
Dans chaque décennie, je peux te citer une superstar qui a été achetée par les Lakers. T'as Chamberlain, t'as Jabbar, t'en as plein, t'as le Shaquille O'Neal et t'as Dwight Howard maintenant. Je pense qu'ils vont continuer là-dessus parce que Dwight Howard, ça demeure peut-être le meilleur pivot de la ligue, même s'il est pas en forme en ce moment. Donc je pense pas qu'ils vont tout envoyer balader.
Est-ce que on va avoir droit peut-être à un licenciement de Mike D'Antoni alors?
J'espère, enfin sans doute.
De toute façon là, c'est presque plus lui qui coach là. Hein. Je sais pas vous, mais
je pense que c'est le groupe qui se gère.
Donc qu'il soit là ou pas, ça change rien. Hein.
Bon après, Antoine, je crois qu'on n'a pas le temps pour un débat de Dwight Howard ou Mike D'Antoni, on aurait trop de choses à dire là. Je crois.
Non mais voilà, c'était juste voilà, je pense qu'en cas de non participation au play-off, le cas Mike D'Antoni va peut-être être revu à la baisse.
C'est certain.
Il sera réglé rapidement. Voilà. Le cas sera réglé rapidement.
Très bien. Bon bah bon Mike, si tu nous entends, on est désolé pour toi par avance et on va clôturer là-dessus. À tout de suite pour le quiz. Rose crosses over the fade away. Et c'est parti pour la dernière partie de l'émission. J'ai envie de dire, ça va être sensationnel pour les cadeaux qu'il y a à gagner. Nico, Guillaume, Lisa, Laurie, je vous rappelle que vous jouez, avant de vous expliquer les règles, hein, vous jouez quand même pour le Larousse des maisons et chalets de France des années 30. Donc,
c'est pas sérieux.
Youpi ! Non, mais j'ai pas celui-là en plus.
Non mais celui-là c'est pour moi, c'est cadeau vraiment, hein, c'est je vous l'offre.
C'est le collecteur là. Hein.
Voilà et en plus de ça, tellement aujourd'hui je suis dans un bon jour, je vous offre un poster de Muggsy Bogues à l'échelle 1/100 pour plus de réalisme. Franchement, c'est pas beau ça.
Avec quelle équipe
Hornets.
Ah bah Hornets, attends, c'est interdit.
Hornets, ok.
Et, Et l'accès, et l'accès gratuit au blog de Royce White, alors c'est pas pour cette semaine?
Non, l'accès gratuit et la possibilité de publier sur le blog de Royce White, ça sera pour la semaine prochaine.
Parce que chers auditeurs, il faut savoir que c'est Antoine qui rédige le blog de Royce White.
Et vous aurez peut-être la chance d'avoir un bout de barbe de Royce White.
Transpirant ou?
Non, ça sera encore pour plus tard, c'est vraiment le, c'est le... Bon alors, je vous explique les règles. Je vais vous poser une question. Chacun votre tour, ok? Donc, dans l'ordre, on va faire Laurie, Lisa, Guillaume, Nico. Donc dans l'ordre. Et du coup, chacun votre tour, vous allez répondre. Le premier qui loupe. Donc si Laurie, je te pose une question, tu loupes, t'es éliminé direct. Voilà, c'est salut. Ciao.
D'accord.
Ça continue pas jusqu'à ce qu'il y en ait un.
Voilà, et pas de la rousse des maisons échalées de France. D'accord. Et ça te ferait pas chier.
Allez, c'est parti.
Donc voilà. Et donc le dernier restant sera le grand gagnant de ces magnifiques cadeaux. Ça vous fait plaisir?
J'ai la pression là. Je suis en j'adore les années 30. Position.
Donc c'est toi qui commences, hein, Laurie. Donc j'espère que tu as fait cette semaine.
Ah bah oui, j'ai fait que ça pour la rousse des années 30.
Attention. Alors tu vas me dire quel maillot a été retiré cette semaine en université.
Le maillot de Carmelo Anthony de l'université de Syracuse.
Ouh, elle reste en liste. Ok, on continue.
Le dico.
Ah là, j'avoue, j'ai un peu peur. Hein.
Lisa, attention.
Il y a de la concurrence.
Bon, Lisa, je vous annonce, on commence quand même avec des questions plutôt simples. Lisa, quel joueur cumule un 6 sur 22 au shoot depuis son entrée en D-League?
Attends, laisse-moi deviner. Je pense à Royce White.
C'est Royce White, c'est ça! Bien joué! Non, il fallait que je la place, Royce White, je suis désolé, mais voilà. Guillaume.
Ouais.
Quel joueur a planté 46 points face à son ancienne équipe cette semaine?
James Harden,
exactement. On continue, Nico. Mm-hmm. T'es bien là, Nico? T'es ready?
Non, moi je le veux, ce Nico, je le veux, moi tu sais. J'ai l'imposteur dans ma chambre.
Alors, c'est parti. Qui a déclaré cette semaine que son équipe avait peut-être un peu trop frimé depuis le début de la saison?
Oh, facile.
C'est Stoudemire, non?
C'est Stoudemire, bien joué!
Oh, j'ai eu peur.
Attends, continue, Laurie.
Oui.
Ah oui, non, je peux pas te poser cette question-là, c'est sur les Lakers. Non, Quel coach s'est dit impressionné cette semaine par Anthony Davis?
Waouh.
C'est pas...
Stop, éliminé.
C'est pas Doc Rivers?
Non. Non, c'est pas...
Bon, ça va, bien.
Je te donne une dernière chance. 10, 9, 8,
ouais, c'est fini.
7,
je sais pas,
6,
je sais pas.
5,
je sais plus.
Regardez sur internet, dépêche-toi. Non. Et le pire, c'est que quand tu as dit Doc Rivers, t'étais pas loin, puisque c'était Tom Thibodeau.
Ouais, j'étais pas loin, d'accord.
Sa chaussette, c'est Linois, c'est pas loin.
Non.
C'est à 4 heures près en voiture, hein.
Mais c'est pas ça, c'est Tom Thibodeau, l'ancien assistant coach des Celtics,
oui,
qui a gagné.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc.
Non, mais il y a fraude, parce que j'avais à la base une question sur les Lakers, il y a fraude.
Oui, mais je vais la poser à Lisa, cette question sur les Lakers.
Super.
Lisa, alors. Qui a déclaré cette semaine que les Lakers devraient songer à amnistier Kobe?
Oh, facile!
Oh, bah, sympa!
Ah, j'ai bien fait de les inverser, ces questions. Alors, il y a quelqu'un qui est habitué des déclarations choc, qui a dit cette semaine, les Lakers devraient peut-être songer à amnistier Kobe Bryant.
Je dirais Charles Barkley.
Perdu, c'était Mark Cuban!
Oh!
Mais ça aurait pu être de Barkley, effectivement.
C'est Mark.
Loupé le dico.
Bon bah les filles, c'est loupé le dico là.
Ouais, c'est marrant.
Bon, Nico. Guillaume.
Non, Guillaume, laisse le duel.
Excuse-moi, Guillaume. Alors, quel joueur Vince Carter a-t-il dépassé au classement des meilleurs marqueurs cette semaine?
Ah. Alors, si ça je le sais, ils l'ont dit.
il l'a dit.
Ça commence par White.
Si.
Ça finit par White.
Non. C'est Gary Payton.
C'est Gary Payton, t'as eu la chance sur le fil.
Merci Internet.
Non, ils l'ont dit dans le récap. Larry Bird, il y a quelques temps, je crois.
Nico. Oui, c'était Larry Bird juste avant. Donc Nico.
Gary Payton.
C'est ça, bravo.
Vas-y, go.
Alors.
J'ai senti qu'elle est autant pour moi.
Ouh, alors attention, celle-là, elle est pas facile. Cite-moi deux personnes que Dwight Howard a énervé au All-Star Game.
Popovic.
Oui.
Et Greg?
Popovic,
je sais pas. Kobe.
Royce White.
Oui,
Royce White.
Kobe,
Royce White.
C'est ça, exactement.
Alors, c'est facile, Kobe, il y a une chance sur deux.
Ouais, de toute façon, Kobe. Il énerve toujours Kobe, donc.
Et je pensais que t'allais me dire la moitié des téléspectateurs, mais c'est bon, ça marche.
Non, moi je répète, moi.
Guillaume?
Ouais.
À l'heure d'aujourd'hui, donc ce dimanche 24 février 2013, à 12h16, dis-moi qui détient la meilleure série de victoires et avec combien de matchs en ce moment?
En ce moment?
Réfléchis bien, hein, sinon tu vas perdre. Hein.
Alors, Miami?
Miami, exactement. Et la question bonus, avec combien de victoires?
Ouais, mais c'est bonus, ça compte pas, ça.
Allez, c'est bonus.
Je dirais 9.
Eh non, c'est 10. Ouais.
Ah oui, ils ont gagné hier, pardon.
Ils ont gagné hier, ouais. Nico, quelle équipe s'est déplacée cette semaine uniquement avec 8 joueurs?
Ouh. Je dirais Houston.
Et c'est perdu! C'est Guillaume qui remporte les magnifiques, Nico!
Allez, ça c'est fait.
Et on poster.
C'était Orlando, non?
Et oui, c'était Orlando, bravo Lisa. Et
ouais, ils ont décimé leur...
Non, on a dit équipe NBA, on a dit.
Le Magic s'était déplacé cette semaine avec 8 joueurs face à Memphis. Donc Guillaume, voilà, Guillaume, ça y est, tu es le gagnant.
Ben ouais, je suis super content là.
Tu es le gagnant.
Mais qu'est-ce que ça te fait?
Donc, non, mais il a gagné toutes les pages du Dico ou...
Oui, alors donc c'est voilà, le Larousse, donc des maisons et chalets de France des années 30, donc je l'ai, il est à côté de moi, là, vraiment, je te le dis. Ça c'est cadeau, il est dédicacé, donc ça va. Il est voilà, dédicacé par l'auteur, donc l'auteur, bah, je ne vais pas te le citer, hein, parce que par respect pour lui. Et le poster de Muggsy Boggs, lui aussi dédicacé, c'est voilà, c'est et c'est à l'échelle 1/100, hein, donc voilà, toujours plus de réalisme. Voilà. Donc voilà. Merci d'avoir participé. Est-ce que vous voulez que je vous pose une petite question bonus quand même pour un petit non parce que bah, j'en ai encore une ou deux là. Et,
mais vas-y, et, fait, alors.
Vous allez me dire avec qui s'est embrouillé J.R. Smith cette semaine?
Avec l'assistant coach de Woodson, non?
Exactement. Bon allez, je vais te filer une carte Panini.
Oui.
Toi, ça sera une carte de Mike D'Antoni.
Super. Je savais pas celle-là.
Dédicacé par Kobe. Allez, une petite dédicacé dernière
avec une lettre d'insulte dessus.
Non, non, dédicacé la lettre d'insulte, ça sera pour plus tard. Ça sera pour quand il y aura pas de play-off. ensuite, allez, la petite dernière pour la route. Quelles équipes, on en a parlé cette semaine, quelles équipes se sont affrontées en 1997 à l'Open McDonald's de Paris?
Les Lakers, c'est Paris.
Non, il y a la moitié de la bonne réponse, c'est pas les Lakers.
C'est pas les Lakers?
Ah, Paris,
les Bulls.
C'était les Bulls contre le Paris Saint-Germain.
Ah ouais.
Allez, parce que là je suis content là, j'ai envie de la faire celle-là. Qui a fêté ses 50 ans cette semaine?
Oh, c'est sûr. Royce White.
Charles Barkley.
Ouais, Royce White.
Exactement, c'est Charles Barkley, il y avait le petit piège avec Michael Jordan.
Et oui, c'était dimanche dernier.
OK, bravo à tous. Bon bah Guillaume, je t'envoie ça très rapidement, hein, ça me fait super plaisir. Bah,
j'espère.
Je t'envoie ça, là c'est imminent, là ça arrive par Chronopost dès demain chez toi.
Tu vas le lancer de chez lui.
Je le lance de ma fenêtre. Bah Laurie, t'as gagné ta carte Panini là avec Mike D'Antoni, ça te fait plaisir.
Super, merci. Ah bah attends, là je suis ému, j'ai pas de mots d'ailleurs.
Lisa, pour toi c'est dommage, mais je peux rappeler quand même que pour te consoler, Thabo Sefolosha a fait son record de carrière cette semaine, donc ça compense quand même.
C'est déjà assez, ça me fait plaisir.
Et puis Nico, bah je ne sais que te dire tout pour toi. Bon bah merci à tous d'avoir été là cette semaine.
Merci.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de news, toujours plus de débats, toujours plus loin, plus fort, plus vite.
Toujours plus de Ross White.
Toujours plus de Royce White. Bon bah je vous dis merci, je vous dis au revoir, je vous dis bonne semaine basket et à bientôt.
Ciao.
Bonne semaine, à bientôt.
Salut.